Laudetur Jesus Christus.
Le pape Léon XIV a reçu les membres de la Commission pontificale pour la protection des mineurs ce jeudi pour renouveler leur engagement inébranlable contre les abus. Nous entendrons en début de ce journal l'un des fondateurs de cette commission, le cardinal Sean O'Malley. Les condamnations internationales s'élèvent contre les frappes à Gaza, parmi elles, celle de l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert. Il dénonce une guerre absurde, sans objectif ni perspective, nous l'entendrons. Les alliés de l'OTAN s'accordent pour augmenter leurs dépenses de défense jusqu'à 5% de leur PIB, engagement pris à Bruxelles ce jeudi avant le sommet fin juin. Et puis à suivre également dans ce journal un reportage sur la côte syrienne, bastion de la communauté alaouite qui poursuit son insurrection armée contre les nouveaux maîtres du pays.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. Réflexion, dialogue, renouvellement de l'engagement inébranlable de l'Église contre les abus. Ce sont les maîtres mots de l'audience privée qui a eu lieu ce matin entre le Saint-Père et la Commission pontificale pour la protection des mineurs. L'occasion de faire le point sur le travail accompli par la structure, notamment la publication de son tout premier rapport en octobre dernier, mais aussi les projets pilotes en cours à Tonga, en Pologne ou encore au Zimbabwe. Mis en place sous le pontificat de François, la Commission se rapporte désormais au nouveau pontife, le pape Léon XIV. L'un de ses fondateurs, le cardinal Sean O'Malley, nous détaille les priorités de l'Église d'aujourd'hui en matière de prévention des abus.
Je pense que les priorités sont toujours les mêmes. Nous essayons de donner avant tout la parole aux victimes et à leurs familles. Notre priorité, c'est aussi la transparence. Dans le passé, les pires actions de l'Église ont été de couvrir les crimes, de ne pas les signaler. Travailler avec les autorités civiles, aujourd'hui, est un pas en avant très important. Mais la priorité est donc la transparence, le fait d'informer les gens de ce qui se passe. Il faut aussi qu'il y ait un sens des responsabilités. Et nous avons besoin que s'opère tout un processus éducatif au sein de l'Église pour que les gens réalisent que l'Église, de par sa mission même, doit être une expression de l'amour et de la miséricorde de Dieu et que, par conséquent, le soin et la protection des enfants et des jeunes doivent être au cœur de notre mission. Et comme je l'ai déjà dit, les gens n'écouteront notre message que s'ils sont convaincus que nous nous soucions d'eux, que nous nous soucions de la sécurité de leurs enfants. Dans le sud global, de nombreux pays commencent à peine à s'attaquer à ce problème et la Commission s'efforce tout particulièrement de les aider.
L'archevêque émérite de Boston, le cardinal Sean O'Malley, qui soulignait donc l'importance de la transparence. Le deuxième rapport annuel de la Commission sera publié en octobre. Il portera principalement sur les réparations envers les victimes. Plus tard dans la matinée, le pape Léon XIV a reçu les 246 membres de la secrétairie d'État, organisme central de la curie romaine, composé désormais de près de 50% de fidèles laïcs et de plus de 50 femmes. La secrétaire d'État reflète aujourd'hui le visage de l'Église, a souligné le souverain pontife, un discours à retrouver en intégralité sur notre site internet vaticannews.va. Et à la une de l'actualité internationale, l'horreur qui se poursuit à Gaza. Ce jeudi, une centaine d'employés de MSF, Médecins sans frontières, ont protesté à Genève contre la militarisation par Israël de l'aide humanitaire. Dans un territoire affamé depuis des mois et continuellement bombardé, sans perspective de retour des otages. Cette guerre vaut à Israël d'être de plus en plus isolé sur la scène internationale. Mais des voix s'élèvent aussi dans l'État hébreu pour condamner cette fuite en avant meurtrière. C'est le cas de l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert, qui dirigea le gouvernement de 2006 à 2009. Pourtant membre du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, il a signé récemment une tribune dans plusieurs journaux pour dénoncer des crimes de guerre. Notre confrère de l'Osservatore Romano, Roberto Cetera, lui a demandé pourquoi il avait signé ce texte.
The war in Gaza at this stage has no objective.
La guerre à Gaza, là où nous en sommes aujourd'hui, n'est plus objective. Il n'y a plus de chance de sauver les otages et la seule issue de ce conflit, c'est la perte de vie de soldats israéliens, la perte des otages et la perte de vie de tant de Palestiniens de Gaza qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Je pense que la majorité des Israéliens est mécontente devant l'extension de la guerre ces derniers temps, avant tout parce que personne ne comprend ce qu'est la stratégie d'Israël. Dans quelle direction allons-nous? Quelle est notre vision du terme de ce conflit? Qu'est-ce qu'Israël a en tête pour l'avenir? C'est la même chose pour la Cisjordanie, où vivent 3 millions de personnes. Qu'est-ce que nous voulons faire là-bas? Voulons-nous vraiment continuer à occuper indéfiniment, ou bien voulons-nous faire des changements? La seule solution pour mettre fin à la guerre à Gaza comme en Cisjordanie, c'est un processus politique qui mène à un accord sur une solution à deux États. Il n'y a pas d'alternative.
Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien, qui parlait donc de cette solution à deux États, une solution prônée par le Saint-Siège. Plusieurs pays européens ont déjà reconnu un État palestinien, comme l'Espagne et l'Irlande. D'autres, comme la France et le Royaume-Uni, y songent. Mais Berlin s'y oppose clairement et déclare cet après-midi qu'une reconnaissance dans le contexte actuel enverrait un mauvais signal. Déclaration du ministre des Affaires étrangères allemand lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue israélien. L'Allemagne, dont le chancelier Friedrich Merz est à Washington ce jeudi pour rencontrer le président américain, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, les ministres de la Défense des pays de l'OTAN sont réunis à Bruxelles pour préparer leur sommet fin juin. Ils ont confirmé leur engagement de renforcer leurs armées et d'investir dans de nouveaux équipements militaires. Le représentant allemand Boris Pistorius a annoncé chercher 50 à 60 000 soldats supplémentaires pour répondre aux objectifs fixés par l'Alliance Atlantique. La correspondance de Delphine Arbolier.
Que la Bundeswehr ait besoin de plus de soldats professionnels n'a rien de nouveau. Cela fait des années que l'armée allemande tente de recruter. Or, c'est loin d'être simple dans un pays qui s'est longtemps cru en sécurité, protégé par les États-Unis et par l'OTAN, et où le service militaire obligatoire a été suspendu en 2011. Concrètement, la Bundeswehr compte 181 000 soldats et soldates, un chiffre loin de la barre des 200 000 que s'est fixé le pays depuis une dizaine d'années. Et même cette barre semble désormais insuffisante. À Bruxelles, ce jeudi, le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a estimé qu'il faudrait entre 50 et 60 000 recrues supplémentaires pour répondre aux besoins de l'OTAN. L'Alliance Atlantique souhaite augmenter ses effectifs et ses capacités en Europe pour répondre à la menace que fait peser la Russie. Dans ce contexte, le ministre allemand se demande aussi, et c'est nouveau, ce que pourrait apporter un service militaire volontaire dont il a lui-même relancé l'idée et qui pourrait bientôt entrer en vigueur. Au sein de la Bundeswehr, certaines voix demandent de plus en plus ouvertement le retour à un service militaire en partie obligatoire. Le débat est toutefois loin d'être tranché. Il reste très polémique chez les plus jeunes. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
Le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États poursuit sa visite à Cuba à l'occasion du 80e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Après les évêques et les fidèles hier, Mgr Gallagher rencontre aujourd'hui le président de la République et le premier ministre cubain. Direction la Syrie à présent, où la minorité musulmane alaouite dont est issu le président déchu Bachar al-Assad ne cesse d'être la cible d'exactions depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Une opération a fait 3 morts hier dans la province de Latakia, dans l'ouest de la Syrie. Cette même province où les groupes loyalistes de l'ancien régime continuent d'appeler à la contre-insurrection armée. C'est le reportage de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin.
Des tirs résonnent en écho depuis les montagnes alaouites. Sur un checkpoint à l'entrée de Kardaha, village d'origine du clan Assad, Ahmad Ahmadi, membre de la sécurité générale, attrape sa kalachnikov, puis jette un regard inquiet autour de lui.
Ce sont les loyalistes au clan Assad. C'est la plus grosse menace aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se cachent dans la région. Ces tirs, c'est fréquent. Ils ciblent les civils, les points de contrôle.
Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, ils sont des centaines à préparer une contre-insurrection, près de la côte, à se cacher dans les montagnes, les fermes et les maisons.
On a un service de renseignement qui travaille activement pour les rechercher, pour suivre leurs mouvements. On fouille régulièrement la région et on trouve tous les deux ou trois jours une cache d'armes. Car oui, ils ont beaucoup d'armes.
Ahmad Ahmadi poursuit. 40 membres de la sécurité générale ont ici été tués à Kardaha ces derniers mois. Nada Adnan, elle, est journaliste, alaouite, opposante de longue date au régime de Bachar al-Assad et victime de 9 tentatives d'assassinat.
Il y en a eu une ici, il y a un mois. Ils ont tiré en direction de mon bureau, je me suis mise à terre. Puis la sécurité générale est arrivée. Ils ont également filmé ma maison, mis mon adresse en ligne.
De l'autre côté des murs de son bureau, une explosion, puis des tirs. Le visage de Nada Adnan se crispe, devient livide. « Soyez discret », glisse-t-elle en éteignant la lumière. « Peut-être viennent-ils à nouveau me chercher ». À l'attaquer, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Et puis on termine ce journal avec cette information. L'échange téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping aujourd'hui. Le président chinois a enjoint son homologue américain à traiter la question de Taïwan avec prudence pour éviter tout conflit. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actualité en langue française à 8h30 demain, heure de Rome. D'ici là, belle soirée à toutes et à tous.